2. Bonjour à tous, merci d'être venu à cette table ronde. Pour l'instant, il nous manque encore David Calvo qui ne doit pas être loin et qui nous rejoindra en cours de route. Et pour cette table ronde, nous allons parler de la révolution 2.0. On va en discuter avec nos auteurs ici présents. L'intitulé de cette conférence, tout du moins le sous-titre, c'est on va évidemment parler du printemps arabe, hein, Tunisie, Libye, Syrie, et on va se poser la question de savoir s'il suffit d'un tweet, d'un SMS ou bien encore d'un commentaire sur Facebook pour lancer un mouvement, voire une révolution. Les réseaux sociaux peuvent-ils faire basculer l'histoire? Vous imaginez comme le sujet est vaste. Et nous avons trois auteurs pour le moment sur le plateau. Et on va faire le parallèle à la fois leur relation à eux avec les réseaux sociaux, car ils ont tous des Twitter et des pages Facebook. Et puis on en discutera aussi du point de vue de l'écrivain. Est-ce qu'on peut simplement un tweet ou un commentaire sur Facebook, est-ce que ça peut vraiment changer le cours de l'histoire? Est-ce que ça leur semble presque crédible comme scénario? Donc on va pouvoir discuter de tout ça. Juste à ma droite, nous avons la chance d'avoir Ian MacDonald avec plusieurs romans que vous connaissez peut-être, notamment Roi du matin, Reine du jour, Brésil ou bien encore Le fleuve des dieux. Ian MacDonald qui a tweeté sur un de ses romans depuis Nantes hier, on va pouvoir en parler avec lui. À sa gauche, Norman Spinrad, c'est Rêve de fer, Jacques Baron et l'éternité, des classiques de la science-fiction, mais aussi il est parmi nous, Oussama, on va en discuter ensemble. Il a aussi un Twitter, donc on va pouvoir discuter de tout ça, mais qu'il n'utilise pas beaucoup, donc il nous expliquera un petit peu. Et puis Lionel Davout qui est traducteur émérite et qui vient de sortir notamment Léviathan, son premier thriller, après notamment le recueil de nouvelles L'importance de son regard. Et Lionel, il a un blog, il a un Twitter, il a des pages Facebook, donc les réseaux sociaux il connaît parfaitement. Une première question peut-être pour Norman Spinrad. Norman, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, vous l'appréhendez comment en tant qu'auteur de science-fiction?
I was just listening to the science panel that came before us, and I was struck by a thought that I've had in different ways, which is that technology, I don't care what technology it is, certainly electronic technology, certainly all this Facebook, Twitter, is morally neutral. It's what people do or do not do with it. So I have a Twitter account, which I don't really use much because, I write fairly long novels. And I also write songs. So if I'm going to do a one-liner, a two-liner, I'd rather write a song than do something on Twitter. Facebook can be very useful in contacting people that you haven't seen for years. It's also a good promotional tool. It is also used, we see politically now, with the Occupy movement, which becomes worldwide like that, and to some extent with Twitter. But it's also a huge waste of time where people are just blathering at each other. And even your wall gets papered, if you have a lot of so-called friends, with all kinds of malarkey and useless stuff, so that as a communication tool, it's not very good. Email is better. So it's a very complicated question because it's not about the technology, it's about the way it's used. And right now that's a mass confusion. It's very clear to me that the internet technology, particularly Twitter, but also Facebook and YouTube in particular, have changed the rules of revolution, have just as everybody talks about the globalized economy and globalized politics like that, but now you have globalized revolution. This thing that started in New York with Occupy Wall Street in a week is worldwide. It's the perhaps Western equivalent, and not just Western, of the Arab Spring, which started in Tunisia and then spread like wildfire through electronic means, through the internet, through the web, and now you have a worldwide pre-revolutionary or revolutionary movement for the first time that's totally incoherent in a way. It's a line from an old Sex Pistols song. I don't know what I want, but I know how to get it. I want to destroy Park Savoy. I want to be anarchy. And that is the Occupy movement at the moment. So that is one use of this technology. The same technology, other aspects of it, technically in China, produce something, attempt to produce the same thing, but the Chinese government uses it as a means of control and as a means of mind control. They don't just censor. I read a while back a whole thing where they are spending billions of dollars on putting cameras everywhere, worse than in England. And they have a face recognition software which they buy from the United States that allows them to pick out people anywhere. I mean, I wrote this in Agent of Chaos, in which they, you know, in which if they find you, they can kill you without bothering to do anything except press a button. They have the technology. So the technology is completely morally neutral. It's what's done with it. And what is going to happen with the Occupy movement is going to be a very, very big thing, because the global banking system, the fiscal system, is dead. It doesn't work. It's a black hole. It's a, as Tom Dish said in some novel somewhere, it's a corpse wired for sound. That's why all this stuff is happening with the euro. That's why the American economy is out of whack and Congress can't do anything about it. That's why Europe is in turmoil over this whole thing. This is dead. It's gone. It's walking around like a zombie. And you have an Occupy movement that knows that 99% of the people in the world have been screwed by 1%, but not what to do about it. Nevertheless, this is a worldwide revolution right now, and it is enabled by this technology, which also begins to enable dictatorial powers against it to also use the technology. So I think we are maybe worldwide in for a kind of internet world revolution that nevertheless doesn't at the moment know where it's going.
Alors, viens de nous rejoindre sur ce plateau, David Calvo. Voilà, pour oui, vous pouvez l'applaudir hein, de bon matin comme ça. Pour cette conférence, David, qui s'appelle La Révolution 2.0, point d'interrogation. On parle évidemment du printemps arabe et on se demande si Twitter, Facebook peuvent entraîner des révolutions mondiales. Norman vient de nous dire qu'il penchait plutôt dans ce sens. Peut-être est-ce que tu peux nous dire comment toi tu l'utilises. Tu as un compte Twitter. Pour finir de présenter David Calvo, quand même, minuscule flocon de neige depuis 10 minutes, 5, Wonderful, et de la BD, notamment Le Grand Doudou, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps.
It's a great pleasure to be here with you on such a beautiful morning and to hear such beautiful things from you guys. So, thank you for having me here. Je vais parler en français, si ça ne vous dérange pas. Moi j'utilise Twitter depuis, je ne suis pas un early adopter, comme on dit. Je crois que j'ai commencé à utiliser Twitter au moment de la révolution en Iran, justement. Enfin, la révolution, je ne sais pas si on peut le dire que c'était une révolution réellement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Nous n'avions justement qu'un écho, cette chose-là. Mais j'avais trouvé que c'était assez puissant d'envisager que des gens puissent envoyer des petites bouteilles à la mer comme ça, désespérés, pour trouver des endroits où se planquer. Et moi, je me souviens, et ça a été vraiment le moment où j'ai vraiment commencé à m'en servir, où je me suis fait rabrouer par des gens qui avaient l'habitude d'utiliser ces réseaux-là et qui me disaient ne retweete pas n'importe quoi parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des tweeteurs iraniens qui sont en fait des occidentaux voire des chinois, on va savoir, et qui en fait regardent les gens qui vont retweeter et vont se servir de leur adresse IP pour trouver les vrais gens qui eux ont besoin d'être accueillis. Donc en fait Twitter devenait un objet de surveillance malgré tout, malgré les gens qui essayaient d'aider, les gens qui cherchaient des ambassades, des quartiers. C'était assez flippant comme truc, quoi. Évidemment, on avait des photos qui arrivaient avec des gens qui mouraient sous les yeux des passants, quoi, et des gens qui prenaient des photos comme ça, gens blessés. Moi, je me souviens la fameuse photo de cette femme blessée. Elle était sur Twitter. C'est passé tout de suite, quoi. Et au début, c'était pas grand-chose. C'était juste des témoignages d'étudiants qui voyaient des choses comme ça. Et moi, ça m'a frappé, quoi. Et la deuxième chose qui a déclenché, c'était Gayman. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Gayman qui tweetait l'apocalypse. Alors, je ne sais pas si tu as dû entendre parler de ça, c'était assez impressionnant. C'est Gayman qui, à un moment donné, s'est dit « Bon, ben, je vais faire une blague sur l'apocalypse. Est-ce que je préfère, je ne sais plus ce que c'était la blague, assister à l'apocalypse ou boire du thé ?» Et pour tester le nombre de followers qu'il avait, il était déjà à 1 million, je crois. Et ça a pris une ampleur incroyable. Le mot apocalypse a commencé à buzzer et est devenu une trend, comme on dit, c'est-à-dire un mot qui ressort comme ça, sémantiquement. Et tout le monde a commencé à y croire. Et notamment, et alors moi je sais que j'allais sur les forums religieux, les catholiques, qui pensaient que le rapture était là, quoi. Au moment même où Gayman tweetait l'apocalypse, et tout le monde commençait à péter un câble, quoi. Et même lui, au bout d'un moment, il s'est arrêté parce qu'il a dit « Non mais je peux plus continuer parce que ça commence à devenir, c'est hors de contrôle maintenant, quoi. » Et là je me suis dit « Bon là il y a un truc, là il y a vraiment quelque chose de très puissant. » Donc c'est à ce moment-là. Moi comment je l'utilise, c'est vraiment, je mets des fragments comme ça. Des fragments sur ma vie professionnelle, des fois des fragments intimes, parce que c'est intéressant d'avoir des petites bouées, des petites choses qui flottent comme ça. Et voilà. Peut-être pour des révolutions intimes, c'est intéressant aussi, quand on arrive à mettre en scène ses dépressions. C'est pas mal.
Même question pour Ian McDonald. Ian McDonald qui, hier, a appris la troisième réimpression de son roman The Dervish House, qui va arriver bientôt en France. Comment vous vous servez de Twitter? Et puis... En tant qu'écrivain, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse sur la puissance que ça peut avoir, tout du moins Twitter, les réseaux sociaux?
No, I despise most social networks because I find them really creepy and intrusive because I don't really like other people very much. However, they are quite useful tools. I refuse to do Facebook, but I have a Facebook page for my forthcoming YA novel. But personally, I will never, ever set up a Facebook page because I find it very, very creepy. The amount of information you give away and the way that other people, who you may not know, who are not your friends, these people are not your friends. They're not friends and they don't like things either. What, in a sense, they're just there to... Basically, what Facebook is it's the very early days of an attention economy where status and, in a sense, social wealth is gained by attention, online attention, the number of people who retweet your tweet. Even the words are stupid. Tweeting. Oh, for God's sake. What a what a stupid word that is. Where people can get attention and some degree of social status themselves by having a lot of friends, by following famous people on Twitter and things like that. And in some ways, I mean, the political aspect's fantastic, great, but it's the creeping idea of a social attention economy is what's making me a little bit leery about a lot of social networking. There is a thing in Britain... you probably have it here in France as well. It's a site called TripAdvisor. And what TripAdvisor is, it's a review for hotels. You go on holiday, you stay in a hotel, you put your review on it. It's like Amazon, you know, in a sense. And TripAdvisor, though, is much more personal in a way than Amazon ever is. And what they're finding there is that lots of people are putting bad reviews on hotels, basically going around pretending to be, thinking that they are reviewers, that they are the new Egon Rone, and that they get a certain degree of attention and a certain degree of validity and a certain degree of importance because they imagine that people respect their reviews on TripAdvisor, yet again, it's that kind of socially networked attention economy. And in many ways, it's actually quite destructive of people's personalities and other people's lives. So, I mean, I do think that there's a huge amount of political good comes out of social networking, out of Twitter. I am on Twitter, at Ian N. McDonald, if anyone wants to follow it. And I quite enjoy the act of sending a tweet because it's like urban haiku. It's like kind of nice, kind of short, pithy statement. But I'm kind of more interested in the social mechanisms of what social networking is doing to people. Because in some ways, the internet, it's much better at bringing out the bad in people than bringing out the good in people. If someone finds that, you know, if someone finds that they can get a lot of attention through doing something online, they will do it. And that's kind of what interests me at the moment in what's going on online. I think the thing that worries me about Facebook revolutions is that the internet is forever. Is that all those, you know, let's occupy Wall Street, you know, let's smash the pillars of capitalism, let's bring down the state. All those things you have on Facebook will stay there in some form, more or less, forever. And maybe not next year, maybe not the year after, but 5-10 years' time, if somebody wants something, they may very well come and, you know, they know where to find it and where to get information on you. If you're going to be an online revolutionary, first of all, first thing is make sure you're anonymous. And there are certain bits of, there's a Swedish piece of Swedish software, I can't remember the name of it, but it's an anonymizing piece of software. It hides your IP address so that simple things like, you know, so basically you can't be found. So if you're going to have a revolution, you know, don't join the herd, get clever, make yourself anonymous first, because it will come back and bite you in the end.
David, je te voyais réagir, entre guillemets, une réaction par rapport à ce que disait Yann.
Ben oui, parce que d'un côté, il est très critique, et en même temps, il a un Twitter, quoi. Donc, quelque part, il s'en sert aussi. Et donc, quelque part, vous faites partie aussi, vous-même, de la masse, quoi, et de la meute, comme vous dites. Moi, je crois qu'effectivement, comme vous dites, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est un média qui est extrêmement jeune, et on n'est pas exactement sûr de comment on doit s'en servir, si réellement on doit s'en servir. Moi, je connais des gens, moi, j'ai à peu près tout, mais je me sers de tout en juste mesure, quoi. Après, il y a des gens qui sont là-dedans parce qu'ils ont besoin d'exister malgré tout, et ça existera toujours, des gens qui ont besoin d'attention. Des attention economy dont vous parlez, c'est une idée très forte, et j'espère qu'on n'arrivera pas à ça. Mais par contre, je pense qu'au niveau de l'intime, la révolution intime et la possibilité de voir si les mentalités évoluent, c'est très important si on veut vraiment changer le monde, au sens où on peut faire toutes les révolutions possibles, c'est pas nous qui avons ni le contrôle de l'électricité ni le contrôle des tanks. Donc je pense qu'avant tout, on peut avoir le contrôle de nos idées. Et pour avoir le contrôle de nos idées, il faut pouvoir créer un espace de discussion et un espace intime où les choses peuvent se mettre en mouvement entre nous. Et ça, c'est très difficile dans des sociétés aujourd'hui où on n'est pas habitué à communiquer de cette manière-là. Et donc on invente des nouveaux moyens de communiquer ça. Et peut-être que la mentalité humaine va pouvoir enfin évoluer. On va pouvoir prendre un point de recul sur ce qui se passe et enfin pouvoir passer à l'étape supérieure, quoi. Donc oui, c'est potentiellement creepy, bien sûr, parce que c'est toujours creepy de voir des gens mettre des photos d'eux à moitié à poil. C'est toujours creepy de voir des statues de gens qui parlent de ce qu'ils ont mangé la veille. Moi, je connais des gens qui prennent des photos de ce qu'ils mangent tout le temps. Ils peuvent pas s'en passer. C'est une extension d'eux, quoi. Alors, j'arrive dans un bar, je check sur Foursquare, et puis alors je regarde ce qu'il y a à manger, je prends ce que j'ai à manger, et je tweete ce que je dis. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Mais il y a des excès partout. Et après. Bon, c'est pour ça que moi, l'intimité, je suis pas contre. Je pense qu'il y a une grande beauté là-dedans, et il y a une grande générosité chez certaines personnes aussi, et je pense qu'il faut la prendre, celle-là, quoi. Et ça serait dommage de passer à côté.
Lionel, toi qui as un blog, un Twitter, ton avis sur tout ça un petit peu?
Alors moi, effectivement, donc je blog, tweet, Facebook, etc. Alors je photographie pas tout ce que je mange non plus, mais moi, je vois vraiment ça de mon côté, je me sens assez proche de ce que dit David, parce que je vois vraiment ça comme un grand terrain de jeu. Internet, je trouve qu'il y a toute une mythologie qui est associée à Internet, et d'ailleurs, ne serait-ce que l'intitulé de la table ronde, c'est-à-dire un tweet peut-il lancer une révolution, il y a une espèce de côté un peu mystique et un peu magique concernant Internet, et je pense que c'est parce que toutes les technologies qui en découlent, pour une grande partie et pour un certain nombre de personnes, sont mal comprises, mal cernées. Ça peut être un truc de geek, on ne sait pas très bien, ils s'échangent des photos de chats, enfin, c'est bizarre. J'ai une anecdote, d'ailleurs, pour son printemps arabe, alors je suis navré, je ne sais plus du tout dans quel pays c'était, mais c'est une amie qui me racontait qu'elle était en communication par MSN avec une amie qui était dans un des pays qui a eu des événements du printemps. Et la personne, donc, prenant des nouvelles, et sa correspondante, donc, à l'étranger, lui répond, ça va, ça craint pas trop dans notre coin, mais le gouvernement durcit un peu sa poigne, ils ont coupé Internet. Et il y a comme un arrêt, mais on n'est pas en train de discuter à travers MSN, là? Ah si, si, ils ont juste coupé le web. Donc, il y a une espèce de mésentente et d'incompréhension, c'est-à-dire que même les gouvernements qui disent ce truc-là est dangereux, on va le couper, mais ils savent pas que les tuyaux, il faut couper, quoi. Donc alors il y a des pays qui s'en tirent mieux, qui savent beaucoup mieux malheureusement ce dont il s'agit, genre la Chine par exemple, qui fait une grosse pression là-dessus. Mais donc il y a une espèce de toute une grosse mythique autour du net qui je trouve passionnante, et c'est-à-dire qu'on c'est une espèce d'atmosphère de campus universitaire permanent, mais le campus du MIT, c'est-à-dire qu'il y a il y a du gros n'importe quoi avec des idées très drôles qui se propagent, et en même temps des choses extrêmement pointues. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, et je pense que au-delà de la technologie, au-delà des réseaux, c'est cet esprit véritablement qui est important, parce que si on parle juste purement du printemps arabe, finalement ça revient à une guerre du renseignement, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent, qui contrôlent le renseignement, qui sont l'État et qui ne veulent pas que les informations filtrent. Et puis il y a les révolutionnaires qui s'échangent les informations comme ils peuvent. Alors effectivement, Internet aujourd'hui est un média qui reste mal connu et mal géré, y compris par les pouvoirs publics. Je ne parlerai absolument pas de la loi Adopi en France. Et d'une part... Merci. je plaisante. D'une part, donc cette chose qui est mal connue, et d'autre part, cette espèce de mythique qui est très de mythologie qui est très jeune, mais qui est très fermement ancrée, et qui donc donne un peu le pouvoir aux gens de pouvoir effectivement s'exprimer de diverses façons, comme le disait David.
Norman.
I think maybe this panel is misnamed. I don't think it should be Revolution 2.0. I think it'd be Revolution Beta, because this is at its beginning. But listen to Ian. I get these horrible ideas, but they're true. It's easy enough to go further than hiding your identity. You can have a false identity. People do. They have their false avatars. Facebook, if you have a lot of so-called friends, takes up so much of your time that with a little software inventiveness, if it doesn't exist already, you could automate that, right? You can communicate, you can have an avatar that communicates with your friends, so-called friends. They have their avatars communicating with what they think is you, but it's really an avatar that you've set up. And the whole thing gets automated, and you have avatars communicating with avatars. You have avatars that are demagogues trying to create a revolution among the other avatars. And you likely end up with... this is a novel. I'm writing it here. You end up with a situation where you have a revolution... on the internet between these call them entities which don't exist, and they take over the whole thing, and then it's down with human beings until the janitor comes and pulls the plug on the computer, which is in some movies. So I think the other thing about Facebook. I mean, when I first came on Facebook. I was using it for promotion. I was getting in touch with people all around the world. It was a time machine, too. I was getting in touch with people who I hadn't heard from in many years. All that was very cool. I was getting feedback from readers, from fans, from people who were pissed off at me. Then I started to think, well, is that what really happening or not? And the thing also, it gets hugely boring. Because one of the things about the internet inherently, whether it's Facebook, whether it's, to a lesser extent, YouTube, certainly if it's Twitter, is what you have there is not knowledge. It's opinion and data, more than half of which is bullshit. Some of which in the future is probably going to be bullshit created by bullshit software to mimic, to create bullshit avatars, which, I mean, I have something like that. It's a video that Ben Abbas and us, we did to promote Osama here after Osama bin Laden was dead. And it's on YouTube. And what I said is, Bin Laden is dead, but his spirit marches on. Now, before Bin Laden was killed, because they caught him, and maybe proved it, although why they threw his body in a drink is something that we're never going to know. I thought that this guy would never die, that they just wouldn't let it happen, that they have a voice pin parameter, that they have file tape, and they can make him say anything at any time, and he is, in effect, immortal. This is the same thing as writ large as one of these projected Facebook avatars. It's quite doable. If somebody wanted to be Che, if somebody wanted to create Che, there's Che. If somebody wanted to prevent Charles de Gaulle, every people know these people are dead, but you take people that you don't know are dead yet, you can do this. You don't even need a model. There was a television show on the States called Max Headroom, where the star of the show was a television personality who didn't exist. It was a program. It was obvious that he was a program that made it that way. But it doesn't have to be obvious that you're dealing with a program. We elected an actor president of the United States, playing the part of president of the United States, because they couldn't get John Wayne to do it because he was too busy, and Reagan usually got the secondary choices of the parts that John Wayne refused. So we could have had John Wayne. Might have been better. This is already here. The technology to extend it further is already here. And the immense boredom factor of things like Facebook, I think, is going to actually make this happen.
Lionel.
Non, je trouve ça très intéressant, justement, ces histoires d'avatar. Et, parce que ça, pour moi, ça se relie un peu au débat qu'on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la question de la vie privée, puisque de plus en plus nos vies sont numérisées. Et Facebook, il y a eu une opération. Enfin, on ne sait pas si c'est un canular ou si ça a été un canular lancé qui a été récupéré. Les Anonymous étaient censés faire péter Facebook le 5 novembre. Bon, Facebook est toujours là. Et on ne sait pas si c'est un canular, mais en gros, ils ont plus ou moins récupéré ça en disant qu'ils mettaient l'accent sur le fait que Facebook n'est pas notre ami. Alors, peut-être que nos amis qui sont présents sont vraiment nos amis, mais Facebook en soi récupère énormément d'informations, possède plus d'informations sur nous, sur nos habitudes, que notre famille. Il y a même eu une étude qui a été faite, tu sais peut-être où en gros on peut identifier un navigateur, c'est-à-dire il n'y a pas votre nom, il n'y a pas vos données personnelles dans votre navigateur, mais en fonction de vos préférences, des préférences de votre ordinateur, de la résolution, etc., on peut vous identifier de façon unique. C'est-à-dire même s'il n'y a pas votre nom dedans, si je peux avoir utilisé une petite injection de script dans votre navigateur pour récupérer des paramètres, je sais qui vous êtes, même si je n'ai pas votre nom. Donc je peux établir un profil, regarder qui vous êtes, etc. C'est faisable, ça a été démontré. Donc ça pose toute la question de, est-ce que déjà la notion de la vie privée est quelque chose qui est suranné et auquel il faut abandonner ? Mais je pense surtout, et c'est là que ça rejoint l'aspect de création, que en fait finalement quelque part, c'est aussi une chance pour nous de ne plus être simplement... Parce que, derrière la question de la vie privée sur Internet, se pose la question, Ça veut dire qu'on part du principe que tout ce que je raconte à Facebook, tout ce que je raconte à Twitter, c'est vrai. C'est-à-dire, en tout cas, c'est ma vie, c'est véritablement ce que je fais. Mais rien ne m'y oblige. Donc pourquoi est-ce que je ne fais pas, au lieu d'être simplement une espèce de simple récit à un pour un, c'est-à-dire, effectivement, je rentre dans un resto et je me loque sur Foursquare pour dire que j'étais là, pourquoi est-ce que je ne profite pas de cette occasion, quelque part, pour me créer moi-même et créer une vision différente de moi-même, non pas une forme de mensonge, mais une forme là, et ça rejoint la question que tu posais sur l'usage d'Internet, qu'en tout cas, moi, ce qui me concerne, pour moi, c'est très proche de la fiction. C'est-à-dire que je romance. Il y a toute une tendance dans la politique aujourd'hui qu'on appelle le storytelling, qui consiste à prendre des événements et puis à les tourner d'une certaine façon, en faire une histoire qui va être compréhensible, qui va frapper les consciences pour que je récupère des électeurs ou éventuellement des lecteurs si je suis un organe de presse. Mais à la rigueur, nous subissons tout ça parce que nous subissons les rafales des médias contrôlés par des structures sur lesquelles nous n'avons aucun poids. Mais rien ne nous empêche de faire ça aujourd'hui, nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, pour nous inventer la vie que nous désirons, et puis peut-être, après, davantage y correspondre. Et c'est peut-être pour moi aussi, je vois là une façon une opportunité de création. Moi, je trouve que la création, c'est toujours intéressant, mais aussi une opportunité de création de soi.
Ian MacDonald, lorsque vous voyez des révolutions 2.0, tout comme le printemps arabe, est-ce que ça vous donne envie d'inclure les réseaux sociaux un peu plus dans votre science-fiction ?
Oh no, I include social networks a lot, actually, in what I'm writing. I have a YA novel coming out in December in the States. It's coming out sometime next year, I think, in France. And my editor said, you know, and he reads a lot of YA novels, and he said, that's the only one I've ever read, which actually gets the fact that 14-year-old kids use, you know, use smartphones, have Dropboxes, file share, socially network. An awful lot of YA novels, the kids don't behave like kids that way. They behave like plot devices. Yeah, I mean, I certainly include them, but it's very, very, very boring to write about somebody going on Facebook. It's like making movies. How many good movies have you ever seen about people hacking computers? Very few, because it's very, very boring to watch people hacking computers. It's a lot of fun to watch people running around and shooting each other, but actually doing things online is very boring to watch and often very boring to read as well. I think Norman is exactly right. I used to have a blog, and I've stopped doing it because I felt I had to read everyone's blog post. And it just took hours per day reading these things I didn't really care that much about. And I found the actual thing of writing a blog, I would kind of sit there worrying about what do I have to put in my blog today. And I found it just such an imposition. I have to have a smart idea and write about it today that I stopped doing it because it was a deeply boring process for me, writing blog entries. Twitter is great, you know, it's one short sentence, one short line, you can be funny, you can try to be funny, that's all great, but I stopped blogging because I found it so very, very boring. And that sense of social imposition, that it was expected of me as a writer to do an interesting, diverse, profound, thoughtful blog post every single day, and I just ran out of ideas fairly shortly. I have a recent story. I actually wrote it. I finished it 2 days before the Arab Spring started. It's kind of set in Ghana, and it's kind of it's quite a nice story. It's all told in little dialogues, and it's about a social revolution in Ghana that happens when basically they have a thing like it's like Facebook for the dead. So whenever a member of your family dies, you commemorate, you give them an online memorial page, and all of a sudden the dead start speaking, and it's kind of a polite zombie uprising. The dead, through moral force, affect a small revolution, and I like that. I do think anonymity is a huge issue and one of the central issues of the internet. I don't think privacy is dead. because I don't think privacy will die as long as the internet has a long memory, as long as something you do 5 years ago means that you don't, that someone doesn't offer you a job when they look at your Facebook profile over the past 5 years. That does happen. I have heard of people who have been turned down jobs because they had a picture somewhere off on their Facebook page of them rolling drunk in the street with a bottle of vodka in one hand. And I do think privacy, as long as that happens, privacy is a fundamental concern, an absolutely fundamental concern, and we give it away at our peril. And that's why, have you heard of Google Plus, the new Google social networking service, is having a huge battle to make sure that everyone uses their proper name. You are not allowed a pseudonym. You are not allowed to be anonymous on Google Plus. And I think it's extremely important that people are allowed to be anonymous on Google Plus because the downside can be personally catastrophic for you.
Lionel, oui, je suis tout à fait d'accord que la vie privée est véritablement une notion fondamentale et importante. Maintenant, il y a manifestement les nouvelles générations qui arrivent et qui postent des tas de choses sur leur réseau sans véritablement se préoccuper de la portée que ça peut avoir, et ça n'a pas l'air de gêner vraiment grand monde, en fait. Donc, je pense que la question se pose plus dans une question d'évolution de génération. C'est-à-dire, pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Est-ce que ça va véritablement paraître fondamental aux gens dans 2-3 générations? On ne sait pas, on le verra à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros problème concernant la pérennité et la possession des données. Il y a un nouveau réseau social qui s'est lancé, qui s'appelle Diaspora, qui a pour but, justement, qui est un projet open source et qui a pour but de rendre le contrôle des données aux utilisateurs. Maintenant, Internet prouve... Moi, j'ai une théorie que je nomme de façon affectueuse la loi du tomahawk et de la bombe atomique, qui est que les États et les pouvoirs publics cherchent constamment à contrôler Internet. On l'a vu avec les questions de droits d'auteur, avec les problèmes de piratage. On le voit aujourd'hui avec le contrôle de l'information et cette guerre du renseignement autour du printemps arabe. Mais je suis peut-être un gros optimiste, mais je pense que ces structures-là se battront toujours avec des tomahawks, pendant que les hackers auront toujours inventé la bombe atomique. C'est-à-dire que ces réseaux sont tellement bouillonnants d'innovation et se fondent sur une communauté d'utilisateurs tellement vaste, alors c'est peut-être un vœu pieux et un espoir de ma part, mais que la communauté du hacking et la communauté Internet aura toujours une longueur d'avance. Et que c'est juste une course à l'armement que les États et les structures sont condamnés à toujours perdre. Donc, cette question de la vie privée, aujourd'hui, je pense qu'il faut se la poser, pas selon les termes, mais oh là là, qu'est-ce que Facebook fait de mes données ? Ouais, mais en même temps, j'ai envie d'utiliser Facebook. Donc, est-ce que je pars du principe que, tant pis, toute la NSA a mes informations personnelles, je m'en fiche ? Non, la question, elle n'est pas là. C'est, moi, je suis utilisateur, quelle est l'utilisation que je veux faire de l'usage ? Et ça, l'utilisation que je veux en faire ? Personne ne peut m'y contraindre. Je peux utiliser l'outil d'une façon qui, moi, va me convenir et qui va me permettre de circonvenir le système. Et Internet, pour moi, c'est cette base utilisateur et c'est l'esprit d'Internet de base. C'est comment est-ce que moi, je peux m'approprier l'outil et en faire ce que je veux, et sachant que je suis tout seul. Et comme sans vouloir, je cautionne pas ce que disent les Anonymous, mais les Anonymous disent « We are Legion ». Nous sommes la multitude. Et la force d'Internet, pour moi, ça restera toujours ça. Et c'est la possibilité, et je pense que c'est très important pour chaque utilisateur, tout le monde, de s'approprier l'outil et dire qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, en tant qu'être conscient doué d'un sens critique, je peux faire ça et comment je peux m'en servir.
Norman.
You know, sitting here, it occurred to me that here in France, we have Socialist Party, who is very, you know, lukewarm, to say the least, about Hollande as a candidate. In the States, we currently have the Republican Party, who has a choice between, you know, a robotic personality like Romney and a bunch of crazy people. Not that Romney is all that sane, but there's no reason why you couldn't have virtual candidates running on the Internet. And then I remembered that I had already done it on my YouTube channel which is something I like a lot better than the rest of it. I got about 30 YouTubes. I did a thing that took me about half an hour to do with a little toy robot and some stuff that I pulled off, you know, the internet, some crummy visuals, and disguised my voice a bit, and I did a YouTube called Robbie the Robot for President. The ending, the last line of which is where Robbie says, Romney emulates me. Vote for me. I'm a robot. I'm honest. I'm impregnable. I like Mr. Spock. Vote for me. You know, I have no opinion. This could actually happen. Maybe I started did a terrible thing here. I don't know. We could elect a robot. This technology, I think we're really at the really at the beginning of what this is going to do. We don't know, and as you know, I mean, there's a big conflict here between anonymity and responsibility. I mean, all right, you're anonymous. You're hidden. You can say whatever you want. Why don't we just hang all the Arabs? Why don't we just throw all the Jews in gas ovens? Why don't we bomb Iran? As far as the Arab Spring goes, especially in places like Iran, it's perfectly logical for some government or somebody to come on and say, "I am the Mahdi," and it's an avatar. I am the Mahdi. I am the hidden imam. Oh well, the hidden imam has surfaced on the internet. We are creating here in a profound way an alternate reality, to the extent that any of this, a virtual reality that is going to be at least as complex and screwed up as this so-called reality here. It is really, the more I listen here, the more I think about it, the more I think this whatever this is in its evolutionary infancy. We don't know what we're doing with this. We don't know what's going to come out of it. You see people, you don't see too much of it in the States, particularly New York. You see people with their iPod plugged into their ear, playing games on a phone, walking around the street like zombies. Walking into other people, getting hit by cars, to the point where you have an ad for Audi car in the States, which says and shows it, basically people are driving on the road like morons. They're reading their newspapers. They're playing Angry Birds. Our car is smart because you are stupid. That's part of where this is going. There's immense possibilities here for good and for evil, and like all technologies, I think they have immense possibilities for good and evil. You're going to see both.
Vous qui êtes des vrais gens, et puisqu'il nous reste encore 5 à 10 minutes, est-ce que vous auriez des questions pour nos auteurs? On a une question, est-ce qu'on a un micro? Je vais vous prendre le micro arrive. C'est pour madame.
Oui, bonjour. En fait, ce n'est pas forcément une question, c'est une remarque par rapport à ce que, je crois, Lionel disait de Google+, qui veut contrôler que les gens donnent leur vrai nom. Mais en fait, par exemple, dans Facebook, c'est le même problème aussi. Seulement, c'est plus caché. Alors, bon, moi-même, je suis assez accro à Facebook, mais en même temps, ça me fait assez peur quand même aussi, tout ce qu'on peut récolter sur nous. Et il m'est arrivé une petite mésaventure, justement, c'est que depuis le début, où j'utilise Internet, depuis 1995 peut-être, j'ai effectivement jamais mis mon vrai nom, nulle part. J'ai toujours utilisé des pseudos. Donc quand j'ai créé ma première page Facebook, j'ai fait pareil, j'ai utilisé mon pseudo. Et au bout d'une année environ, ils ont désactivé ma page en me disant, voilà, c'est interdit, il faut mettre votre vrai nom. Donc je me suis posé la question, est-ce que je le fais? Est-ce que oui? Finalement, je l'ai fait. Donc je me suis dit, ben voilà, je dois changer toute mon utilisation. Mais tout ce que j'ai fait avant, évidemment, reste...
ça nous pousse à donner
en plus,
le véritable nom.
Évidemment, bon, moi j'ai été un peu naïf peut-être. J'ai vraiment donné mon vrai nom, mais j'aurais pu essayer de dire n'importe quoi aussi. Un nom qui sonne plus humain que mon pseudo, quoi. Mais j'aurais très bien pu dire n'importe quoi, ils n'auraient pas vérifié non plus. Donc ça, c'est aussi un peu...
Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce problème d'anonymat identité ? Dave ?
Oui, bon, moi je pense que c'est bien l'anonymat. moi, je me souviens quand, dans les années 90, quand j'étais sur le chat Yahoo, j'avais 40 qu'avatars. Moi, je pense que tout ça, à partir du moment où on n'est pas obligé de faire, ça pose pas un problème. Le jour où on sera obligé d'avoir un Google+, là, on se posera des questions, quoi. Le jour où on aura un gouvernement qui nous dit Google+ pour toujours, et vous êtes obligé, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font de ces données ? Moi, je m'en fous que le gouvernement il sache que j'ai mangé à midi, quoi. Par contre, ça m'ennuie peut-être un petit peu plus que quelqu'un qui fait de la pub me propose des plats en fonction de ce que j'ai mangé, quoi. Donc, on est tous volontaires, on met tous l'information, et je pense que quelque part, les gens, ils ont envie qu'on s'intéresse à eux, et ils ont envie qu'on s'intéresse à ce qu'ils mangent, quoi. Et je crois que les gens, ce qu'ils mettent, ils ont envie. Et le processus d'évolution, il est là, et on ne peut pas le nier. Et s'ils ont envie d'être quelqu'un d'autre, et si j'ai envie d'être une femme en ligne, je suis une femme en ligne, ça m'appartient, c'est un bout de moi. Il n'y a pas de raison que dans ma tête, je n'ai pas le droit d'être une femme, et que je n'ai pas le droit d'exister comme une femme pour certaines autres personnes. Donc, au niveau ontologique, moi, je trouve ça phénoménal comme opportunité, quoi. Et encore une fois, c'est... on va peut-être se planter, on est peut-être en train de détruire le monde, ou pas. Mais... moi je pense que l'internet c'est là, on l'a là, on peut faire des choses magnifiques avec, on peut faire des choses horribles avec, tout comme on fait des choses magnifiques avec le nucléaire et des choses horribles, tout comme on fait des choses magnifiques avec le social et des choses horribles. Moi j'en sais rien, enfin, moi tout ça à partir du moment où c'est pas obligatoire, il n'y a pas de raison de dire c'est mal. Non, c'est pas mal, je veux dire, si les gens le font, c'est leur problème. Vous mettez vos informations en ligne, c'est pas eux qui vous disent de les mettre en ligne, non ?
Voilà. Y a-t-il une autre question, monsieur là-bas ou madame ?
Oui, je voudrais savoir quelle est la collaboration que vous mettez en place avec votre éditeur pour toute cette action sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une collaboration avec l'éditeur ? Est-ce qu'il y a une réflexion ? Et comment est-ce que ça se passe ?
Alors, est-ce que quelqu'un a déjà discuté avec son éditeur des blogs, Twitter et Facebook ? Lionel ?
Oui, et mon intervention s'est limitée à dire « j'ai ça et ça fait un certain temps que je le fais ». Voilà l'esprit dans lequel je le fais parce que je suis là depuis un certain temps. J'aimerais pouvoir continuer dans la même voie parce que ça m'ennuierait beaucoup, parce que je suis parfois polémique et parfois stupide. Je pense qu'un des grands droits d'Internet, un des grands droits fondamentaux, c'est le droit d'être stupide et drôle. Pour moi, c'est fondamental et c'est aussi constitutif d'Internet. C'est pour ça que vraiment c'est un campus potache et c'est ça qui est rigolo aussi. Et il y a la collaboration, c'est, on va dire, c'est limité à ça. Je suis sur le net et voilà l'esprit dans lequel je le fais. Et j'aimerais pouvoir continuer à être stupide aussi longtemps que je vivrai. On m'a dit, très bien. De toute façon, c'est des choses que je maîtrise. En fait, dans les échanges que j'ai avec les éditeurs, c'est des choses que je maîtrise en général mieux qu'eux. Donc, et en tout cas, je dis pas avoir raison dans la façon dont je le fais, mais je le fais dans la façon qui m'amuse, et je concevrais pas de façon de le faire autrement. Je le fais pas pour la ramener ou pour avoir mon nom de domaine sur Internet avec mon nom. Je le fais juste parce que ça me fait rire. Et que justement, c'est cette liberté de ton et cette liberté des fois de générer des débats houleux sur le blog et sur le net, c'est ça m'intéresse. Et c'est juste pour dire, je vais aux Utopiales, venez tous acheter mes livres parce qu'ils sont super. Alors effectivement, ils sont super. Effectivement, je suis aux Utopiales, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de discuter du livre numérique. Et l'intérêt, c'est de discuter de photos de chats, de poster des photos de vacances. C'est ça. C'est d'avoir un véritable échange. Moi, je me vois vraiment comme un type qui tient un bar. Alors effectivement, c'est mieux pour le bar que de temps en temps les clients consomment. Mais je ne suis pas là pour forcer à la consommation. Je ne veux pas que mes clients sortent malades. Donc voilà, moi je veux juste créer un endroit sympa où on a plaisir à discuter. Et voilà.
Ian McDonald, quand vous tweetez que vous êtes à la troisième réimpression de The Dervish House, c'est quelque chose dont vous discutez avec l'éditeur. Il attend un petit peu ça de votre Twitter ?
Yeah, I'm very careful about my online presence because it's the first place people look for me. You know, if they look at a book or hear that I'm a writer, the very first thing everyone does is they go and look me up on Wikipedia or find stuff online. It's where people go to first is, as soon as they hear the name, they Google you. And therefore, I'm very much guard my professional online presence. I tend to tweet mostly about things that interest me, news stories, bits of information about books like, you know, a third reprint of Dervish House, stuff about forthcoming books, conventions I'm going to, bits about gardening and growing vegetables I tend to tweet about as well, because that's all kind of interesting stuff. But behind that is a layer you will never, ever get, because I don't want you to get it. And also, you're not entitled to it either, actually. So what you'll get is you'll get the professional Ian MacDonald. There's another Ian MacDonald, and you won't get him. And I try and maintain a very, very strict kind of online hygiene, I think, is probably the way of thinking of it. And the first rule is never, ever, ever blog, tweet, or go on Facebook drunk. Lives can be ruined this way. Reputations destroyed.
Moi, je voudrais juste offrir le point de vue de l'indépendant, quoi. C'est que la téléprésence, c'est intéressant quand on fait des choses qui sont... Moi, j'ai vraiment l'impression de me voir comme un mec qui crosse sa propre tombe, quoi. Et je m'en fous de ce que les gens y pensent de moi. Je m'intéresse même pas. Moi, j'ai pas de blog. J'ai un Twitter. J'ai une page que je contrôle entièrement. Mes mails sont entièrement filtrés par un organisme collectif d'autonomistes qui sur la préservation des données. Donc moi, je suis hyper parano. Mais par contre, j'ai mon espace en ligne dont je contrôle les 0 et les 1. C'est ma tombe. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de discussion. Je suis l'opposé de Lionel, même si je respecte tout à fait Lionel. Et ça, moi, je lis le blog de Lionel. Moi, je fais le contraire. Moi, c'est, je me sers d'une exposition maximale de ce que je fais pour le faire sans me soucier de qui me regarde, en fait. Donc, j'ai ce petit jardin-là où je publie des nouvelles, je publie mes dessins, je fais ce que je veux. Et je pars de ça, en fait. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaille, les éditeurs, bon, moi je ne suis pas un gros vendeur, hein, moi je suis un artisan, ils savent très bien que de toute manière ils ne peuvent pas me parasiter cette activité-là. Donc ils sont obligés d'intégrer cette activité-là, ce que je fais en général, quoi. Ils n'ont pas le choix. Donc c'est ça ou rien. Moi je pars de ça en fait. Je ne fais pas le contraire, je ne parle pas du livre en me posant en auteur à succès, parce que ce que je ne suis absolument pas. Je suis un artisan indépendant qui fait son trou. Et je fais ce que j'ai envie de faire sans aucun souci éditorial quelconque, quel point de vue que ce soit, savoir si ça va se vendre, savoir si c'est étiqueté, savoir si c'est commercial. Tout ce que je publie, c'est en Creative Commons, mais en Creative Commons absolument pas ouvert en disant allez-y, faites ce que vous voulez avec. Non, pas du tout, parce que je pense qu'il y a quand même un respect de l'intégrité de la vision qui est super importante, surtout quand on a la prétention de se poser en tant qu'auteur, ce qui est mon cas. Mais de dire, voulez, prenez-les. Moi, si j'ai envie de les vendre, je les imprimerai et je vous donnerai du matériel. Mais par contre, en virtuel, prenez, c'est fait pour, quoi. C'est la culture qui veut ça. C'est moi, c'est ma vie. J'adore le terme d'hygiène en ligne, online, online hygiene. Je pense que c'est exactement ça, quoi. Mais moi, je vais un tout petit peu plus loin, parce que l'hygiène, c'est quelque part, c'est l'activité artistique qu'on a tous les jours, quoi. C'est le bonheur qu'on a de se lever, de se dire, aujourd'hui, je produis, aujourd'hui, je publie. Je ne vais pas publier dans un an, je ne vais pas attendre l'impression, je ne vais pas attendre le marketing, je ne vais pas attendre la librairie. Non, c'est maintenant. Je dessine, je le mets en ligne, c'est là, ça existe, et je me fous de savoir s'il y a une personne ou 10 000 personnes qui font l'avoir. L'important, c'est moi. Donc c'est ultra individualiste, en fait. Et je m'enterre tout seul, et je vais mourir tout seul, et j'en ai rien à foutre.
Alors, vous pouvez tweeter cette conférence et peut-être mourir tout seul aussi. Mais attendez quand même d'abord de retrouver des auteurs qui seront en dédicace incessamment sous peu. Et puis juste ici maintenant, une conférence avec Greg Bronmore qui a fait l'affiche des Utopianes. Merci à vous, merci à tous et merci à eux.